Merci d'écouter Radio France Internationale. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel. Et on va parler maintenant de l'actualité du continent américain. Une demi-heure consacrée aux Amériques et à l'actualité haïtienne. Dossier dans quelques instants sur la violence en Artibonite, département lui aussi confronté à la domination des gangs. Nous irons également en Bolivie découvrir un instrument traditionnel des communautés autochtones, le charango. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer. Benoît Ferrand, vous nous emmènerez en Guyane 2 jours après le meurtre d'une jeune pharmacienne. Une opération Placenet XXL, comme le dit le gouvernement, est annoncée à Saint-Laurent-du-Maroni.
Oui, hier, près de 700 personnes se sont rassemblées devant la sous-préfecture de Saint-Laurent, tandis qu'au même moment, à peu près, à Cayenne, le préfet annonçait le déploiement des grands moyens pour tenter de freiner la délinquance et la violence.
À tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous retrouve dans 20 minutes environ. Et avant tout cela, on va faire le point sur l'actualité avec vous, Gilles Moreau, bonjour.
Bonjour à tous. En cet Eid el-Fitr qui marque la fin du Ramadan dans le monde musulman, de nombreux Palestiniens se sont rassemblés dans la bande de Gaza pour prier au milieu des ruines. Les bombardements meurtriers d'Israël, eux, sont incessants. Ils ont touché ce matin le nord et le centre du territoire palestinien, en particulier le camp de Nusayrat, où 14 personnes, dont des enfants, ont été tuées selon le ministère de la Santé du Hamas, qui annonce un nouveau bilan depuis le 7 octobre, près de 34 500 morts. En Espagne, le Premier ministre Pedro Sanchez milite en faveur d'une reconnaissance par Madrid de l'État palestinien. Il l'a redit ce matin devant la chambre basse du Parlement. Le chef du gouvernement tente de rallier d'autres pays d'Europe à cette cause palestinienne. RFI Madrid, François Musso.
L'Espagne est préparée pour reconnaître un État palestinien. Pedro Sanchez a prononcé ces paroles de manière solennelle et déterminée. En faisant cette annonce devant les députés, il confirme non seulement que c'est sa priorité en politique extérieure, mais qu'il a fermement l'intention de convaincre d'autres États européens. Son objectif, la reconnaissance unilatérale de la Palestine d'ici l'été, et forcer Bruxelles à lui emboîter le pas. C'est une attitude plutôt cohérente du leader socialiste, lui qui, depuis novembre, prône haut et fort un cessez-le-feu à Gaza, des couloirs humanitaires, une conférence de paix et la création de 2 États. C'est aussi une façon de marquer d'ores et déjà de son empreinte la campagne électorale des européennes de juin. Du côté de l'opposition de droite, le leader Núñez Feijóo est embarrassé. Il appuie certes aussi la cause palestinienne, mais il ne veut pas que son adversaire socialiste en tire tout le bénéfice politique. D'où sa phrase ironique, « Monsieur Sanchez, n'ayez pas l'arrogance de vous croire être la seule personne qui en un mois peut régler un conflit qui dure depuis 80 ans. » François Musso, Madrid RFI.
À Bruxelles, après de longues et difficiles tractations, place au moment de vérité. Les députés européens se prononcent en fin d'après-midi sur un texte majeur, le pacte asile et migration. Le compromis trouvé après 3 ans et demi de procédure est une refonte majeure de l'accueil des migrants. On y trouve des contrôles accrus à l'entrée d'un migrant dans l'Union européenne, une partie des demandes d'asile effectuées aux frontières, également un mécanisme de solidarité entre les 27 États membres. Direction maintenant le Venezuela avec un coup de théâtre. L'ancien homme fort du régime chaviste, l'ex-ministre du pétrole, Tarek El Hassemi, a été arrêté avec une 50aine d'autres personnes. Arim Lipold, il est entre autres accusé de corruption et de détournement de fonds.
L'image fait la une des médias officiels, mais aussi ceux proches de l'opposition. Tarek El Hassemi, menotté, entouré de policiers. L'ancien proche du président Nicolas Maduro était déjà tombé en disgrâce l'année dernière. Il avait dû démissionner de son poste de ministre du pétrole après la révélation d'un énorme scandale de corruption au sein de PDVSA, le géant pétrolier étatique. Plusieurs milliards de dollars auraient été détournés par les dirigeants de l'entreprise qui a toujours été un des piliers du système chaviste. Selon le politologue Guillermo Aveledo, ce n'est pas un hasard si cette vague d'arrestations intervient à plus de 3 mois de l'élection présidentielle.
La campagne de limpieza.
C'est une purge. Il fallait répondre aux critiques concernant la corruption dans le pays. Le président ne peut pas être tenu pour responsable, alors il faudra que d'autres personnes rendent des comptes, explique cet expert. Selon le procureur général qui a ordonné les arrestations, les accusés ont voulu anéantir l'économie vénézuélienne avec l'aide des États-Unis. En réalité, l'ancien ministre du pétrole a été sanctionné par Washington pour trafic de drogue.
C'était Harim Dipold en France. Le projet de loi sur la fin de vie adopté en Conseil des ministres. Pour la première fois en France, il ouvre la possibilité d'une aide à mourir à des conditions très strictes, comme souffrir d'une maladie incurable et avoir son plein discernement. Pékin a jugé regrettable une décision prise par l'agence Fitch, l'une des plus grandes agences de notation au monde. Fitch a abaissé à négative la perspective du crédit souverain de la Chine. Dans son communiqué, elle évoque les risques croissants qui pèsent sur les finances publiques du pays. Aux États-Unis, l'autorité de régulation de l'aviation civile a annoncé l'ouverture d'une nouvelle enquête visant Boeing. Le gendarme du secteur s'intéresse cette fois au Boeing 787 Dreamliner, déjà en grande difficulté après toute une série d'accidents ou d'incidents impliquant le modèle 737 Max. Boeing, Nathalie Vitran, est dans la tourmente. Cette fois, tout est venu d'un lanceur d'alerte.
Oui, vous vous souvenez de cette formule de l'ancien président français Jacques Chirac. Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille. Oui, Boeing. Boeing pourrait l'adopter, même si en l'occurrence, les emmerdes de Boeing ont plutôt tendance à clouer ses avions au sol. Dernier épisode, donc, cet ingénieur qui a travaillé plus de 10 ans pour Boeing et qui a contacté les autorités pour signaler un problème sur la manière dont sont assemblés les différents tronçons du fuselage du Dreamliner. Son avocate était hier sur la chaîne NBC News.
D'après lui, Boeing a essayé de prendre des raccourcis dans le processus de construction du 787.
Boeing a rapidement démenti tout compromis sur la sécurité de ses appareils, mais c'est une nouvelle entaille à sa réputation, d'autant que la veille de ces révélations, un Boeing 737 de la compagnie Southwest Airlines a été contraint d'atterrir en urgence après avoir perdu le capot d'un de ses moteurs. Conséquence de tout cela, Boeing au premier trimestre 2024 n'a livré que 66 exemplaires de son avion vedette, deux fois moins qu'à la même période l'an dernier. L'action de Boeing a perdu un tiers de sa valeur. Dave Calhoun, son PDG, a certes annoncé son départ de l'entreprise d'ici la fin de l'année, mais non sans avoir touché 33 millions de dollars de rémunération en 2023. C'est un salaire en hausse, Gilles, de 45%.
C'est appréciable. Merci, c'était Nathanaël Vitran. Trois morts, quatre disparus en Italie après une explosion dans une centrale hydroélectrique dans la région de Bologne. Actuellement, les recherches poursuivent pour tenter de retrouver les personnes portées disparues. En football, les quarts de finale aller en Ligue des Champions. Ce soir, la suite du programme avec notamment le match Paris Saint-Germain-Barcelone. L'autre affiche, c'est le match Atlético-Borussia Dortmund. La sécurité a été renforcée à Paris et à Madrid en raison des menaces du groupe État islamique. Enfin, en tennis, une grosse surprise au tournoi Masters 1000 de Monte-Carlo, l'un des grands tournois de préparation à Roland-Garros sur terre battue. C'est déjà fini pour le tenant du titre, le russe Andrei Rublev. Il s'est incliné dès son entrée en lice contre l'Australien Alexei Popirin. Le score 6-4, 6-4. 15h08 ici à Paris. Anne, c'est à vous.
Merci Gilles Moreau. On vous retrouve tout à l'heure dans deux heures pour un nouveau journal. Et nous, on va parler tout de suite de l'actualité du continent américain.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Direction Haïti donc, pour commencer. On parle beaucoup sur cette antenne, dans cette émission, de la zone métropolitaine de la capitale. Des violences quotidiennes, mais la menace des gangs s'étend bien au-delà. Dans le département de l'Artibonite, par exemple, deux groupes superpuissants sèment la terreur. Leurs membres tuent, violent, kidnappent et détournent des camions de marchandises en toute impunité. L'Artibonite dans l'enfer des gangs, c'est notre dossier du jour. Il a été préparé par Ronel Paul.
Comme la majorité des habitants de Liancourt, depuis décembre 2023, cet avocat et enseignant qui préfère garder l'anonymat a dû quitter la zone pour se réfugier avec sa famille dans un endroit tenu secret.
Dans un premier temps, j'ai un cousin qui a été kidnappé par ce gang qui opère à Liancourt depuis un bon bout de temps. Il a été enlevé le 18 août 2023. Après environ deux mois, soit le 13 octobre 2023, ils l'ont tué malgré le versement d'une rançon de 270 000 gourdes, soit environ 1900 euros. Ils nous ont demandé une somme d'argent que nous n'étions pas en mesure de réunir. Au début de l'année 2024, le gang a tué l'un de mes grands frères maternels. C'était le 13 janvier dans une localité qui s'appelle Savane Tapion, alors qu'il rentrait du jardin où il était allé arroser son champ de pois. 15 jours plus tard, ce même gang a assassiné un autre de mes grands frères début février. Une façon de vous faire comprendre que cette insécurité me dévaste au plus haut profond.
le 9 février 2024.
Dévasté au plus haut niveau, le père de deux enfants dit actuellement vivre aux dépens des autres.
Quand vous êtes déplacé, que toutes vos activités sont bloquées, vous vivez dans des conditions inacceptables. Notre lieu de travail, c'est Liancourt, là où toutes les institutions sont à l'arrêt, les écoles et les tribunaux de paix sont fermés.
À Liancourt, environ 90% de la population est déplacée, car la zone est totalement livrée aux mains du gang Grand Griffe, le gang le plus violent du département de l'Antibonite selon l'ONU. S'aventurer sur la route nationale numéro 1, c'est prendre le risque de se livrer à une boucherie. En effet, le 3 avril dernier, Richard Poléus et Jean-Eddy Rousseau, deux avocats qui se rendaient à Saint-Marc pour plaider une affaire terrienne, ont été enlevés puis assassinés. Un proche de l'une des victimes, qui vit actuellement aux États-Unis, se dit chanceux d'avoir pu quitter le pays.
Lorsque j'ai appris qu'il a été assassiné, je me suis fait plusieurs réflexions. La première, je me suis dit que si j'étais encore en Haïti, je me serais moi-même fait assassiner. Parce que lorsque j'étais là-bas, je sortais souvent avec lui. Il me demandait régulièrement de l'accompagner.
Maître Junior, lui, bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Marc, qui assimile cet assassinat à un règlement de compte provoqué par l'insécurité généralisée, demande l'ouverture d'une enquête.
Cela ne peut pas rester impuni parce que ce n'est pas un acte isolé, c'est un acte planifié, commandité et exécuté. Maître Richard est tué dans son fief, à Liancourt, où il a grandi, où il a été scolarisé et est devenu avocat. C'est quelqu'un qui exerce la profession depuis une dizaines d'années. C'est un enseignant, quelqu'un que tout le monde connaît dans la zone. Donc, quelqu'un comme Maître Richard ne peut pas être assassiné dans ce secteur sans que l'affaire ne soit éclairée.
Lors d'une opération, le 25 janvier 2023, 6 policiers ont été tués par ce groupe de gangs. Depuis, la PNH n'y a jamais remis les pieds. Maître Yudlin Cherizard-Joseph, avocate au barreau des Gonaïves, dénonce la passivité des autorités policières tout en reconnaissant que l'institution est dépassée par la situation.
Premièrement, il y a les ordres qui doivent venir d'en haut, mais la deuxième chose, c'est que les policiers ou bien les commissariats doivent disposer de matériel adéquat pour intervenir dans des endroits où il y a des gangs qui sont bien armés et qui ont aussi de l'effectif, certaines fois plus d'effectifs même qu'un commissariat. Il ne faut pas voir uniquement les policiers qui n'interviennent pas, mais il faut voir aussi la hiérarchie de la police nationale, pour des raisons que j'ignore, refuse de donner les moyens qu'il faut et les ordres qu'il faut à la police pour agir.
Dans la nuit du 31 mars au 1er avril, les membres du gang Kokora Tsanras avaient attaqué la commune de Lester à environ 24 km des Gonaïves. Sur leur passage, ils ont mis le feu à des véhicules et des maisons privées. À l'issue des échanges de tirs avec la police, deux membres du gang ont été tués, rapporte John Baker Jean, correspondant du journal Le Nouvelliste au Gonaïve. Ronel Paul, RFI.
Dossier préparé par Ronel Paul à retrouver sur Internet Haïti. On en parle aussi dans la revue de presse aujourd'hui. Bonjour Christophe Paget.
Bonjour.
La presse qui revient sur la situation de la capitale, Port-au-Prince, toujours sans port ni aéroport.
C'est le titre de l'éditorial du Nouvelliste. Sauf miracle, la capitale ne peut recevoir ni par air, ni par mer, ni aide, ni marchandises jusqu'à nouvel ordre. France Duval remarque que le deuxième mois du siège imposé par les gangs a débuté sans que les autorités partantes, ni celles dont on attend la venue, ne se soient prononcées sur la situation de Port-au-Prince et de ses habitants. L'urgence n'inspire aucune action de la part de nos chefs. Et ce, alors que certains gangs disposent d'un arsenal plus important que la police, grâce au trafic d'armes. Le National le rappelle en citant le dernier rapport de l'ONU-CD sur le trafic illégal d'armes vers Haïti, des AK-47 russes aux AR-15 fabriqués aux États-Unis, en passant par les fusils d'assaut israéliens Galil. Les armes, justement, Anne, la police nationale haïtienne a détaillé hier son action depuis la fin du mois de mars, et elle dit avoir saisi 12 fusils d'assaut et 14 pistolets 9 mm lors d'une intervention réalisée dans la douane du Cap-Haïtien. Elle a aussi récupéré un bateau détourné par les gangs, c'est-à-dire dans le Nouvelliste. La PNH recherche le commissaire des douanes qui devait réceptionner la cargaison.
Christophe Paget, vous restez avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de votre revue de presse. Mais d'abord, on va prendre la direction de l'Équateur.
RFI,
Las voces del mundo.
L'Équateur où la polémique ne retombe pas autour du sort de l'ancien vice-président Jorge Glass, arrêté lors d'une opération spectaculaire dans l'ambassade du Mexique, puis hospitalisé le lendemain après un malaise qui pourrait s'apparenter à une tentative de suicide. Eh bien, il est de retour en prison et cela inquiète beaucoup son avocate Sonia Vera García. Écoutez.
Nous ne disposons que des informations qui sortent sur les réseaux sociaux. Nous n'avons aucun contact avec lui et nous pensons qu'ils peuvent le suicider à n'importe quel moment en prison. Le bilan des prisons équatoriennes est terrible. Il y a eu plus de 500 massacres dans ces prisons ces dernières années. Et l'an dernier, ceux qui auraient participé à l'assassinat du candidat à la présidentielle, Fernando Villavicencio, ont été exécutés alors qu'ils étaient en prison sous la responsabilité de l'État équatorien. 7 personnes se seraient suicidées dans 2 prisons. Par conséquent, qui peut nous assurer qu'ils ne peuvent pas inventer un supposé suicide de Jorge Glass?
Sonia Vera García, avocate donc de l'ancien vice-président équatorien, de retour donc en prison. Elle répondait à Carlos Pizarro de la rédaction Amérique latine de RFI. RFI. The world's voices. It is a dark day in Arizona. C'est un jour sombre pour l'Arizona. Réaction de la gouverneure de cet État américain après l'interdiction quasi totale de l'avortement.
Just now, the Arizona Supreme Court issued its opinion in Planned Parenthood v. Mays.
La gouverneure Katie Hobbs, vivement opposée à l'annonce de la Cour suprême hier, l'institution réactive une loi du 19e siècle. C'est l'une des plus extrêmes du pays, rappelle la gouverneure. Une interdiction inacceptable, dit-elle, qui ne prévoit aucune exception pour les femmes victimes de viol ou d'inceste. Pas d'exception non plus en cas de complications lors de la grossesse. Voilà l'indignation de la gouverneure d'Arizona hier, Christophe Paget.
Oui, dans USA Today, la présidente de Planned Parenthood d'Arizona a dit les mêmes mots. Hein. Littéralement, c'est un jour sombre pour l'Arizona. Cette interdiction doit être instaurée dans 2 semaines, mais elle provoque déjà, écrit le quotidien, des séismes politiques. Le président Joe Biden, par exemple, s'est opposé à cette décision de la Cour suprême de l'Arizona, une conséquence, estiment les démocrates, de la nomination par Donald Trump de 3 juges de la Cour suprême des États-Unis, cette fois, qui ont tous voté il y a 1 an et demi, on s'en souvient, pour supprimer la protection de l'avortement au niveau fédéral, écrit USA Today. Or, rappelle The Hill, l'Arizona est un État majeur dans la course à la présidentielle de novembre. Joe Biden l'a emporté d'à peine 0,3% lors de la dernière présidentielle. Et dans cet état, écrit le New York Times, seuls 7% des électeurs soutiennent une interdiction de l'avortement quasi totale, telle que la prévoit la loi qui doit être réactivée. Les républicains semblent s'être aperçus qu'il y a un problème, écrit The Hill. D'où ce que le quotidien Arizona République appelle la grande retraite républicaine, avec plusieurs figures locales bien connues pour leur position anti-avortement qui rétro-pédalent frénétiquement, comme la candidate au Sénat de l'Arizona, Carrie Lake, une protégée de Donald Trump. Elle a publié un communiqué dans lequel elle s'oppose à la décision de la Cour suprême, alors que, rappelle l'Arizona République, il y a 2 ans encore, elle parlait de l'avortement comme du péché ultime.
Et cette décision, c'est aussi un problème pour Donald Trump.
Avant-hier, rappelle le Washington Post, l'ex-président avait refusé de soutenir une interdiction de l'avortement au niveau national, disant que c'était justement aux différents États de décider. L'objectif était de neutraliser ou au moins rendre flou un dossier qui permet aux démocrates de remporter des victoires électorales depuis un peu moins de 2 ans. Mais cette décision de la Cour suprême de l'Arizona a tout relancé.
Il est 6h18 à Phoenix, en Arizona. On l'appelle le luth des Andes, un instrument venu du Pérou ou de Bolivie. La Bolivie, où notre correspondant nous fait découvrir donc ce charango. L'instrument est inspiré des guitares apportées par les Espagnols au moment de la colonisation. Une guitare améliorée, puisque le charango compte 10 cordes. Clarken Orozco en fabrique, il en joue aussi, c'est un grand nom de la musique en Bolivie. Et notre correspondant Nils Sabin l'a rencontré.
À plus de 70 ans, Clarken Orozco ne se lasse pas de fabriquer des charangos. Dans son minuscule atelier du centre de La Paz, à 2 rues de la Plaza Francisco, le luthier continue d'assembler ses instruments de manière artisanale. Il y a quelques jours, il a reçu de nouvelles pièces de bois qu'il commence tout juste à travailler.
Voici les bois que j'utilise. Ça, c'est du tarco, ça, c'est du naranjillo. Ils sèchent depuis 2007 et je ne commence à les utiliser que maintenant. Et ça, là, c'est du quinquina, un autre type de bois très spécial pour les charangos.
Les pièces de bois qui viennent d'être livrées ont encore la vague forme d'un charango. Clark Anorosco va donc les tailler et les travailler à la main pour arriver à des pièces plus fines. Le luthier construit toujours 4 instruments à la fois et ceux qu'il vient de commencer seront terminés d'ici 3 ou 4 mois. Une manière de faire artisanale qu'il tient de sa famille.
Mon père avait tout appris avec mon grand-père. Et moi-même, j'ai fait mon apprentissage avec mon père, qui était fabricant d'instruments à cordes.
Un apprentissage qui a commencé dès son enfance.
J'ai commencé à apprendre vers 11 ans, si je me souviens bien. Mon père me disait, il faut poncer cette partie de la guitare pour l'alléger. C'est comme ça que j'ai appris, en l'aidant.
L'apprenti luthier apprend à fabriquer et aussi à jouer toutes sortes d'instruments à cordes, mais se spécialise dans le charango. À cette époque, l'instrument est construit en bois et avec des carapaces de quirquincho, un tatou des Andes. Une pratique aujourd'hui interdite car l'espèce est en voie de disparition à cause de cet usage.
À l'époque, ça donnait de super instruments qui étaient un peu plus petits. Les gens voulaient des charangos au son plus aigu et plus agréable.
Et Clark Anorosco sait de quoi il parle. Il est lui-même un compositeur et un interprète de charango très renommé en Bolivie. Depuis la fin des années 70, il fait partie du groupe Aymara, un groupe de folklore bolivien avec qui il a réalisé des tournées sur tout le continent, et même en Europe, aux États-Unis ou au Japon. Toujours avec un objectif, faire découvrir la musique autochtone bolivienne et ses instruments. Aujourd'hui, le rythme s'est calmé, mais il continue toujours de composer.
Des fois, je me réveille à 4 heures du matin avec une mélodie en tête et l'envie de jouer. Donc je prends mon enregistreur ou mon portable et j'enregistre la mélodie. Puis je vais chercher mon charango, je joue et j'ai une nouvelle chanson.
Preuve de la reconnaissance dont il jouit, chaque année, Clark Anorosco est invité au Festival National du Charango qui a lieu au mois d'octobre, à la fois jury et participant à certains concours d'interprétation. Ce festival est aussi l'occasion d'admirer la variété des charangos construits en Bolivie, car plus d'une centaine de fabricants s'y retrouvent.
Les fabricants,
chaque fabricant a sa façon de travailler. Certains font des instruments plus petits, d'autres un peu plus grands. Ils jouent sur la taille, mais aussi la forme du charango, plus carré ou plus bombé. Et maintenant, tout le monde sait travailler le bois, vu qu'il est interdit d'utiliser des quirquincho tatou.
Selon le luthier, la réputation du charango est désormais internationale. Les instruments qu'il construit sont commandés des mois à l'avance, et beaucoup de clients viennent de l'étranger pour les acheter. Mais Clark Anorosco ne compte pas changer ses habitudes, construire ses charangos tranquillement et avec passion. Nils Sabin, La Paz, RFI.
Reportage de notre correspondant en Bolivie. Reportage à retrouver sur la page internet du Journal d'Haïti et des Amériques.
Le Journal d'Haïti et des Amériques.
Vous connaissez sans doute, c'est sûr même, tous ces génériques, des bandes-sons de films cultes de George Lucas, Star Wars, mais aussi Indiana Jones qu'il a créé avec Steven Spielberg. Eh bien, le réalisateur américain sera à l'honneur au prochain Festival de Cannes et la presse s'en fait l'écho, Christophe Paget. George Lucas recevra à ce moment-là une palme d'honneur.
Oui, il est peut-être en train de profiter de son statut d'aîné du cinéma sans se préoccuper de faire davantage de films. Mais George Lucas se rendra au Festival de Cannes de cette année pour y recevoir une palme d'or honorifique, écrit le magazine Empire. George Lucas, qui rappelle Andy Weir, a créé, en plus de l'Empire Star Wars, Lucasfilm, Pixar et la franchise Indiana Jones. Le réalisateur a réagi, écrit Deadline, en rappelant que le Festival de Cannes occupait une place spéciale dans son cœur. En 1971, son premier film, THX 1138, y avait été projeté. La présence de George Lucas est un véritable coup pour le festival, estime Variety. L'an dernier, le réalisateur n'était pas venu, malgré la projection du dernier Indiana Jones.
Christophe Paget pour la revue de presse, merci. On va parler maintenant de l'actualité des Outre-mer avec nos confrères de La Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
En Guyane, 48 heures après le meurtre d'une jeune pharmacienne, on annonce une opération PlaceNet XXL à Saint-Laurent-du-Maroni.
L'émotion est toujours très vive, on s'en doute, dans la capitale de l'Ouest guyanais. Hier, près de 700 personnes se sont rassemblées devant la sous-préfecture, tandis qu'à Cayenne, le préfet annonçait le déploiement des grands moyens pour tenter de freiner la délinquance et la violence. Je vous propose d'écouter successivement des échos sonores de la manifestation à Saint-Laurent. Reportage de Pierre Tréfou et Terence Moy, suivi du préfet Antoine Poussier au micro de la première.
Justice
Justice pour Hélène Tarsis et toutes, 24 heures après son meurtre. La population saint-laurentaise s'est installée au pied des marches de la sous-préfecture pour exprimer leur peine, mais aussi leur désarroi après cette nouvelle tragédie.
Tu laisses tes enfants, tu sors, tu ne sais pas même pas si tu vas rentrer. Ils rentrent chez les gens, ils agressent. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Nous sommes fatigués de ça. Les autorités n'ont qu'à faire quelque chose.
En fin d'après-midi, la préfecture a annoncé une action forte dans les prochains jours dans la capitale de l'Ouest et la tenue du prochain conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance en mairie lundi prochain.
Dès aujourd'hui, nous enverrons une trentaine de gendarmes supplémentaires. Nous les projetterons à Saint-Laurent-du-Maroni et ils seront coordonnés avec la police aux frontières, avec les douanes que j'ai aussi également mobilisées, mais aussi avec les services de contrôle de l'État pour lutter donc contre la délinquance en général, contre la circulation des armes, mais aussi contre tous les trafics qui viennent de l'extérieur. Parce que la réponse, elle est attendue immédiatement. On a entendu cette exigence et elle durera le temps qu'il faut pour rétablir la confiance et la sécurité à Saint-Laurent-du-Maroni.
Direction la Martinique avec un tout autre sujet, la sécheresse qui s'installe et les coupures d'eau qui se multiplient déjà dans les communes du centre, Chelcher et Fort-de-France. Reportage Christine Cupit.
Les conséquences de la sécheresse se font déjà ressentir dans le centre de la Martinique. Plusieurs quartiers de Fort-de-France et de Chelcher ont subi des coupures d'eau depuis la fin de semaine dernière. Les habitants de la cité La Batelière, par exemple, ont passé une bonne partie du week-end sans eau potable dans les robinets.
À notre réveil, nous avons constaté qu'il n'y avait pas d'eau. Et à ma grande surprise, je pensais que l'eau serait arrivée même dans l'après-midi. Et finalement, l'eau est arrivée le lendemain vers 11h, c'est ça ? 11h midi à peu près. Le maire n'a pas mis de citerne pour nous, rien du tout.
Le sud de la Martinique est pour l'instant épargné grâce aux usines du Lamantin et du Lorrain. L'espace sud espère tenir encore 2 semaines sans pluie. Si la pénurie d'eau persiste, des tours d'eau de 24 heures maximum seront alors effectués dans le sud.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'être avec nous. Dans quelques instants sur RFI, De Vive Voix avec Chantal Laureau. Ce sera juste après une plongée dans la playlist de RFI avec la chanteuse Kelly Uchis et son morceau Télépathia.
Te tuviera de frente en la mente, te la voy.
you're fast asleep. You stay on the phone just to hear me breathe.
Kel Yuchis et son morceau Telepathia. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Encore RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. Tiffany Menta était à la réalisation, merci à elle. Vous ne bougez pas, dans quelques secondes maintenant, de vive voix, Chantal Leroux s'interroge sur l'histoire du mot pute. Elle vous explique tout ça tout de suite.